Et salut à tous, c'est Vin sur Plottime, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actualité. Voilà, j'ai laissé compiler tout un tas de news dans mes notes, je me suis dit qu'allez, on va expulser ça une bonne fois pour toutes pour ce début hein, de mois de décembre. Alors, on commence tout de suite, une nouvelle baisse de vues, hein, après août. Voilà, je constate sur ma chaîne qu'il y a une nouvelle baisse de vues. J'imagine que l'algorithme de YouTube joue encore l'apprenti sorcier, mais il y a un mais. J'arrive encore à en vivre, notamment grâce aux gens qui ont souscrit à mon Patreon, voilà. J'approche de plus en plus vite des 100 souscrits depuis que je suis passé de 1 à 2 contenus par mois. Donc, est-ce qu'on ne s'en foutrait pas? Voilà. Est-ce qu'on ne s'en ficherait pas des vues? Ah, c'est vraiment une vraie question, est-ce qu'on s'en ficherait pas? Ok, je fais moins de vues, mais j'arrive à en vivre, parce que voilà, il y a des gens qui me soutiennent sur Patreon. Voilà, c'est la simple question, moi je peux dire ce que je veux en plus, on est bien, on est entre nous, je ne sais pas. C'est une vraie question. Et justement, sachez que j'ai installé un code de réduction de 10% sur mon Patreon valable jusqu'à fin décembre. Plottime-12-2025, applicable également sur les abonnements pour l'année. Donc si vous souhaitez me soutenir financièrement, eh bien, ça va vous permettre de bénéficier de mes contenus bonus qui soient composés de podcasts ou de vidéos. Pendant un an, voilà, vous allez pouvoir écouter mon nouveau podcast Voici pourquoi je suis ni de droite, ni de gauche. Un podcast 100% apolitique, loul. Je raconte une récente anecdote qui résume parfaitement pourquoi, contrairement à ce qu'on pense, je ne souhaite pas me positionner politiquement. Pour ceux qui préfèrent les vidéos, il y a également ma réaction face à quelqu'un qui me déteste sur mon Patreon. N'oubliez pas hein, qu'un abonnement vous donnera accès, de toute façon, à tous mes contenus bonus. Au sommaire, le teaser du remake live-action de Vaiana, la déclaration des créateurs de South Park par rapport à Trump, la trompette infernale, Star Wars dans la sauce, pour résumer grossièrement, on aura une petite section audience et box-office, une section flash news, et pour finir, les plats de résistance, Zack Snyder qui se fait virer par Netflix, et nous finirons sur le CNC qui nous pompe plus de thunes qu'on ne l'imagine, vous allez voir, c'est très agréable à écouter. Pour commencer, on a Disney qui nous balance le teaser trailer hein, du film live-action Vaiana, Moana en anglais, qui sortira au cinéma le 10 juillet 2026. Et évidemment, hein, ce teaser est d'une grande tristesse hein, quand on sait que c'est juste un vulgaire copier-coller, encore une fois, et surtout bah, que Vaiana, c'est pas si vieux que ça. Tu dis, waouh, ah ouais, ils en sont à un point, il faut faire des remakes de films sortis il y a à peine 10 ans, de même, pour en faire des copier-coller avec les mêmes acteurs, parce que ce sont les doubleurs, je crois, qui reprennent leur rôle. Waouh! Ah ouais, c'est... On en est là. Et le film a marché. C'est incroyable. Mais cela empêche que le trailer fait un turbo bad buzz voilà, sur YouTube. Ce qui signifie que même sans wokies, parce qu'on peut pas considérer ça comme quelque chose de woke, enfin quoique... Voilà, moi je considère que tout ce qui met en avant la culture autre que l'Occident peut être considéré comme woke, et c'est pour ça que je ne me considère pas comme un anti-woke, bref, je vais pas me répéter 50 fois. Et bien même sans ce qu'on pourrait appeler le wokisme, les gens en ont quand même plein le cul des Reddit. C'est assez comique. Mais vous allez voir dans cette vidéo que Disney reste quand même le grand vainqueur de ce match, hein, de ce match hollywoodien. Côté série, les créateurs de South Park continuent de s'en prendre à Donald Trump, la trompette infernale, et à MAGA parce que la politique est devenue la culture populaire. Et que le nouveau patron Paramount nous laisse faire tout ce qu'on veut à leur crédit. Écoutez ce qu'ils ont à dire, c'est hyper intéressant. Ce n'est pas qu'on soit devenus tous politiques, c'est que la politique est devenue la culture populaire. On ne peut pas y échapper. C'est comme si le gouvernement était partout sous nos yeux, ou qu'on regarde, que ce soit le vrai gouvernement, ou que ce soit tous les podcasteurs, les tiktokers, les youtubeurs, etc. Et que tout soit politique et politique, parce que c'est plus que politique. C'est de la culture populaire. On est juste des mecs très modérés. On se moque de tous les extrémistes, de n'importe quel genre. On l'a fait pendant des années avec le wokisme. C'était hilarant pour nous et ça l'est toujours pour nous. Vous savez, l'année prochaine sera différente. S'il y a une chose qu'on sait, c'est que notre série durera bien plus longtemps que l'administration de Trump. Donc on doit faire avec ça pour l'instant. Je trouve cette déclaration intéressante pour deux choses. C'est que, premièrement, nous ne vivons pas aux États-Unis. Enfin, en tout cas, moi, je n'y vis pas. On ne sait pas à quel point Trump est omniprésent bah, dans les médias et j'en passe. Deuxième chose, comme l'ont très bien souligné les créateurs, bah, en fait, ils se moquent de choses dans l'air du temps. Trump est clairement dans l'air du temps, donc eh bien, autant s'en moquer à fond. On ne parle pas de l'âge qui attendent qu'un événement passe pour pouvoir se foutre de leur gueule. Enfin, là, ils se sont... L'épisode sur le Pandorverse est sorti là où on était en plein dedans. Voilà, ils n'ont pas attendu 5 ans plus tard pour le sortir, enfin vraiment. Donc pour moi, bah, c'est honnête, c'est juste une déclaration honnête. Actu suivante, Henry Gilroy, scénariste de Star Wars Rebels, affirme qu'il n'avait jamais prévu que Sabine devienne une Jedi. Toute l'équipe de scénaristes avait trouvé que c'était une mauvaise idée lorsqu'ils en avaient discuté auparavant. C'est... J'ai vu ça et je me suis dit, waouh. Moi, je vous invite à voir ou revoir ma vidéo sur Ahsoka. En tout cas, la grosse vidéo bilan sur la première saison, où je dis que ça n'a aucun sens de l'avoir Jedi. C'est juste qu'il y a une obsession avec les personnages féminins chez Disney, enfin, principalement Lucasfilm, où les Jedi ne sont devenus plus que des femmes. Je pense notamment à la série Star Wars Vision dans la saison 2. Je ne sais pas si c'était le cas dans la première saison. J'ai pas vu la saison 3, j'ai pas envie de la regarder. Mais dans la saison 2, je sais que tous les Jedi, enfin tout ce qui est du côté clair de la force, est représenté par des femmes. Ou alors encore, enfin, lorsqu'on voit un personnage masculin, il est forcément épaulé par un personnage féminin. Et vraiment, le cas Sabine, c'est un cas d'école parfait. Il fallait absolument un Jedi féminin. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Elle est hyper forte. Dans la série Rebelle, elle était hyper forte, hyper intelligente. Qu'est-ce qu'on en a foutre qu'elle soit une Jedi? Ça n'avait aucun sens. Bref, insupportable. Mais vraiment, c'est insupportable. C'est de... Enfin, vraiment, je vais pas réétaler tout ce que je pense de cette série. Mais le plus comique, ce qui m'a rendu fou, c'est dans Star Wars Vision, toujours par rapport à ça, cette série est accusée d'avoir plagié la chorégraphie de combat d'un fan-film. Le fan-film Star Wars a été réalisé par Lawrence Hideyoshi, cascadeur de doublure pour Dune. Le court-métrage Vision a été produit par le studio d'animation indien 88 Pictures et réalisé par Ishan Shukla. Et comme vous pouvez le voir sur les images que je vous montre, ça va au-delà du plagiat. Ça, c'est un putain de copier-coller, plan par plan, mouvement par mouvement. Les mecs ont dit, ils auraient au moins pu changer les angles de caméra, enfin pour faire en sorte qu'on ne sache pas vraiment que ce soit exactement les mêmes mouvements. C'est incroyable, vraiment, c'est... Waouh, bon après, voilà, c'est... Vous êtes en train de me dire que les Indiens copient sur les Américains? Ah bon? C'est... C'était pas le cas avant. Tout ce qui est Bollywood, c'est juste une copie de Matrix, de Zack Snyder, voilà, c'est... John Woo, j'ai oublié de citer la référence principale. Nous passons maintenant à une petite actu jeu vidéo avec Ghost of Yote, qui s'est maintenant vendu à plus de 3 millions d'exemplaires au bout d'un mois. Voilà. Alors, je vous compare ça avec le petit tableau des ventes de Ghost of Tsushima, qui lui s'était vendu à 2,4 millions d'exemplaires en 3 jours, et il a atteint les 5 millions en 4 mois. Voilà. Donc, on peut estimer, on ne sait pas, on n'a pas l'estimation exacte, mais on peut estimer qu'il en est à peu près au même niveau, et d'autant plus que le jeu a coûté à peu près pareil, voilà, à peu près le même budget. Bah c'est normal parce qu'ils n'ont fait que reprendre les mêmes assets du premier jeu, voilà, ils n'ont fait que reprendre le travail du premier jeu, voilà, excusez-moi, j'ai un petit peu de mauvaise foi. Donc le jeu est un succès. Alors je sors mon micro, voilà, je suis en plein montage, et pendant le montage, j'étais sur Twitter, et je vois une news que je vous lis, qui provient de Netflix. Aujourd'hui, Netflix a annoncé notre acquisition de Warner Bros. Ensemble, nous définirons le prochain siècle de narration en créant une offre de divertissement extraordinaire pour les publics partout dans le monde. Voilà. Donc tout le monde est en panique parce que... de ce que je comprends, c'est Netflix qui rachète Warner. Ou alors moi, j'avais cru comprendre que c'est plus une fusion, et je sais pas pourquoi les gens paniquent, parce que ça fait des années que Warner et Netflix étaient déjà en train de se faire des mamours, quoi. Enfin, il y avait des partages de films sur leur plateforme. D'ailleurs, avant que Max arrive en France, il y avait des partages, enfin, pour visionner des films Warner, il fallait aller sur Netflix, hein. Et ça n'avait pas trop changé, enfin, je crois qu'Harry Potter était carrément sur Netflix, et ça avait un peu continué, il y a quelques films qui cohabitaient entre la plateforme Netflix et HBO Max. Et là, en fait, on voit qu'ils concluent un accord ensemble, donc pour concrétiser tout ça. Donc finalement, bah, je vois pas pourquoi les gens paniquent, c'est juste plus facile pour eux de partager leur catalogue, j'imagine. Ou alors peut-être qu'ils vont fusionner leurs deux plateformes, ce qui ne peut être qu'une bonne nouvelle, parce que ça vous fera un abonnement en moins, voilà. Alors évidemment, il y a des gens qui disent « Mais du coup, ça veut dire que HBO Max, ça va devenir woke. » Mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? HBO Max, c'est woke depuis des années, hein. Genre, même encore aujourd'hui, tu regardes la nouvelle série Bienvenue à Derry, c'est woke, on va en parler ça aussi. Donc non, ça ne changera rien, c'est tout le monde se tape des quotas, parce que tout provient de la même source, donc on s'en tape complètement de savoir que tel ou tel machin ne pense pas pareil. Vraiment, là, c'est plus une question de papier, enfin, ça va faciliter l'organisation. Je ne vois pas en quoi c'est une mauvaise nouvelle pour l'instant, mais après, c'est à approfondir, et peut-être que ce sera l'occasion de préparer une nouvelle vidéo sur le sujet. Côté audience et box-office, Pluribus s'établit un record pour le plus grand lancement sur Apple TV+, pour une série dramatique, avec 6,4 millions d'heures de visionner lors des 7 premiers jours aux États-Unis. Alors, une série dramatique, pour moi, c'est pas vraiment dramatique, enfin, c'est plus une comédie, comédie un peu dramatique avec un côté cynique. On va en parler, hein, Pluribus, putain, il y a tellement de choses à dire sur cette série. Je ne vous spoil pour l'instant pas mon avis, vous allez voir. Mais je pense que ma vidéo va beaucoup vous intéresser. Frankenstein a été visionné 29 millions de fois en 3 jours, ce qui est 7 millions de plus que A House of Dynamite. L'autre film à Oscar de Netflix de cette fin d'année. Insaisissable 3 ouvre avec 75,5 millions de dollars au box-office mondial. Il est en lice pour dépasser les 200 millions de dollars. Avec un budget de production de 90 millions, un budget marketing de 60 millions, ce film va donc facilement atteindre son seuil de rentabilité. À mon grand regret, parce que c'était bien pourri. Wicked 2, lui, à côté, démarre avec 226 millions de dollars au box-office mondial, avec un budget de production de 150 millions, un budget marketing de 90 millions, le quatrième plus gros démarrage des films hollywoodiens de 2025. C'était pas très compliqué, hein, parce que niveau succès, waouh, 2025, c'était un triste record. Son seuil de rentabilité est estimé à 480 millions de dollars, ce qui signifie qu'il est parti pour être un nouveau succès, du fait qu'il est sur le point de dépasser actuellement les 400 millions. Et là, on arrive au boss final, Zootopia 2, qui lui ouvre avec 556 millions de dollars au box-office mondial. 556 millions. La plus grande ouverture de tous les temps pour un film d'animation. Quatrième plus grande ouverture de tous les temps. Il a déjà dépassé Superman Loul. Incroyable. Et pourtant, le film, il est... Bah, il est pas ouf, hein. il est regardable, mais enfin, je sais pas, il est clairement moins bien que le premier opus, et là je pense qu'il est sur le point de le dépasser. Hein. Ils ont eu du flair, hein. Chez Disney ils ont eu du flair, et c'est comme ça que Disney a compris que tout ce qui est dessin animé, tout ce qui n'est pas remake, live action, de trucs un peu sensibles comme Blanche-Neige ou les trucs de princesse, et bien ça marche automatiquement, voilà. Sauf Buzz, mais Buzz, vous savez ce qui s'est passé, hein. Voilà, ça a été servi comme étant porté en... je ne vais pas revenir dessus. Mais voilà, Zootopia 2, et je pense que Toy Story 5, ça va être un succès, mais planétaire, hein. Accrochez-vous. Et avant de passer au plat de résistance, petite section Flash News, des news que je sélectionne sans forcément donner mon avis dessus, une série télévisée en prise de vue réelle de V pour Vendetta est en développement chez HBO et DC, et apparemment James Gunn sera le producteur exécutif. Au secours, hein. Putain, V pour Vendetta, dans notre époque, ça va être horrible. Ils vont nous faire V pour Vendetta avec notre vision de l'époque. Ça va être, mais c'est ultra, méga, giga, caricatural. Alors que la BD et le premier film étaient déjà caricaturaux. Et là, du coup, ils vont rajouter une belle couche. Ça va être fantastique. House of the Dragon a été officiellement renouvelé pour la saison 4 sur HBO. La saison 3 sort en été 2026 et la saison 4 en 2028. Donc, ça signifie qu'on aura eu une saison tous les deux ans, voilà. C'est un peu long, mais ok. Et pour finir, une série en prise de vue réelle de Far Cry est en développement chez FX. Ce sera développé par Noah Hawley, donc le créateur d'Alien Earth, et Robert McLennan. Ça suivra un format anthologique comme les jeux, donc ça veut dire que chaque saison parlera d'une autre histoire, exactement comme la série, par exemple, American Horror Story. Et nous poursuivons avec le plat de résistance, Zack Snyder qui se fait virer par Netflix. Alors virer, évidemment, c'est un bien grand mot, hein, voilà, c'est le virer de notre époque, hein, c'est-à-dire qu'on ne renouvelle pas le contrat pour la faire courte. La collaboration entre Zack Snyder et Netflix semble bel et bien terminée. Plusieurs projets de Snyder avec Netflix ont été annulés ces derniers mois, y compris les suites prévues de Army of the Dead, qui était le grand projet, hein, de Snyder, hein, avec l'univers étendu. Mais qu'est-ce qui nous casse les couilles avec leur univers étendu? Ça ne marche pas, les gens en ont marre. Il y avait aussi un animé, Twilight of the God, donc il n'y aura pas de saison 2. Et le projet de thriller policier qu'il avait soumis, apparemment ne verra pas le jour. Le projet le plus récent de Snyder avec Netflix, Rebel Moon, et sa suite a pu être finalisé, mais la réception mitigée et les résultats globaux ont visiblement entamé la confiance du service. Attends, ça veut dire qu'on n'aura pas de Rebel Moon 3 ? Quel dommage. Selon les articles récents, l'accord entre Snyder et Netflix a été rompu. Il n'est plus engagé de façon exclusive et ses prochains films seront produits en dehors de la plateforme. Netflix semble s'appuyer sur des critères stricts de rendement. Les projets Snyder n'auraient pas atteint les objectifs attendus en termes de visionnage ou de retour global. Et oui, Netflix fonctionne comme ça. Pas de vue, pas de pognon. Le coût des projets, grande ambition, effets visuels, univers étendu, combiné à des retours de critiques mitigées, peu enthousiastes, parce que oui, en plus de ne pas être rentable, les critiques étaient à chaque fois, c'était systématiquement mauvais. Voilà, que ce soit Army of the Dead, les projets autour de cet univers, Rebel Moon, Il n'y a rien à faire, les gens n'aimaient pas. La sauce ne prenait pas. Snyder s'oriente désormais vers d'autres projets hors Netflix. Oui, s'il te plaît, casse-toi. Netflix est maudit. Hein. Ne. La plateforme est maudite. Seul Guillermo arrive à faire de belles choses. Par exemple, il nous prépare un film plus intimiste intitulé The Last Photograph, un drame sans visuel extravagant. Pour résumer, effectivement, aujourd'hui, on peut considérer qu'elle a été virée de Netflix, leur collaboration a été stoppée, et pour moi, c'est une excellente nouvelle. Je suis très curieux de voir à quoi ressemblera le Snyder d'après. Est-ce qu'il y aura une renaissance? Je pense que oui, enfin, j'en suis même quasiment sûr. Par contre, le Snyder rentable, ça, j'y crois plus. Tout simplement parce qu'il n'a jamais vraiment été rentable. Enfin, c'est... Quand tu vois Man of Steel, bien plus tard, j'ai découvert que ce film n'a jamais été vraiment rentable. Il a juste fait un meilleur score que le dernier Superman. Hello. Et nous finissons avec le dessert, avec le CNC, qui apparemment, d'après un tweet que j'ai pu voir, enfin ce qui m'a incité à faire cette vidéo, donc je me suis renseigné à côté, mais sur un tweet que j'ai pu voir sur la plateforme du diable, hein, donc X tweeté, le fait que le CNC serait financé par les spectateurs des salles de cinéma est l'une des plus grosses fake news les plus répandues sur le service public. Le budget du CNC est de 800 millions d'euros, dont seulement 18% qui provient de la taxe sur les billets, qui elle représente 150 millions d'euros. 80% du budget du CNC est issu de taxes sur Canal+, TF1, Netflix, Apple et compagnie, collectées par le ministère de l'économie ou par délégation par le CNC. Cela reste des taxes et de l'argent public. Et oui, les cocos. Alors écoutez, là, je suis un peu plus renseigné. Bon, on parle de 18-20%. C'est un peu flou, mais globalement, c'est à peu près ce chiffre-là. On est autour de 20%-18%. La source provient apparemment de Sénat.fr et je vous résume globalement ce qu'ils nous disent. Le CNC n'est pas financé principalement par les spectateurs, contrairement à une idée très répandue. Ses ressources proviennent de plusieurs taxes affectées et la taxe sur les billets de cinéma ne représente qu'environ 20% de son financement. Donc voilà, 20, 18, c'est à peu près la même chose, soit autour de 150 millions d'euros selon les derniers rapports publics. La grande majorité du budget du CNC provient en réalité des taxes prélevées sur les chaînes de télévision, la vidéo à la demande et les plateformes de streaming comme Canal+, TF1, Netflix ou encore une fois Apple TV+. Ces taxes sont collectées par le ministère de l'économie ou par délégation de CNC. Autrement dit, ce n'est pas le cinéma qui finance le CNC, mais plutôt l'ensemble de l'écosystème audiovisuel français. En bref, vous êtes baisés. Si vous voulez boycotter le financement des films du genre Le Grand Déplacement, vous êtes obligé de soit vivre dans une jungle, soit simplement changer de pays. Ou juste, voilà, enfin... Oui, voilà, vivre dans une jungle, ne plus consommer rien de ce qui concerne l'audiovisuel. De façon, qui regarde encore la télé? Moi, je n'ai même pas de câble pour regarder la télé. Je n'ai aucune idée de ce qui se dit à la télé. J'ai une télé chez moi, mais elle me sert juste pour ma PS4, jouer, brancher mon PC dessus pour pouvoir jouer à des jeux. Voilà, c'est le seul intérêt de ma télé. Et vous, de votre côté, est-ce que vous participez au financement du CNC? Ben, moi, malheureusement, oui, parce que j'ai un abonnement UGC. Et d'ailleurs, bah, c'est... Le cinéma reste une passion, hein. Je continue d'aller au cinéma plusieurs fois par mois et j'en ai besoin pour parler des sujets pop culture, blockbuster sur ma chaîne YouTube. Donc je suis Nick A. Sauf si je change de pays, mais là c'est compliqué. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces news dans les commentaires? N'hésitez pas à me faire part de vos avis, évidemment, j'y porterai attention. Je remercie une nouvelle fois hein, tous les souscrits qui me soutiennent financièrement. Voilà, c'est grâce à vous que je peux tanker, encaisser la baisse de vues qui, bah, finalement, bon... Bah on s'en tape quoi. Mes vues baissent, mais c'est pas grave, j'en vis. Non seulement je peux en vivre, mais en plus je peux dire un petit peu ce que je veux. Autrement, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.